19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
12 millions de connexions simultanées sur Ma Classe à la maison dès lundi 8h. C'est la promesse de l'éducation nationale et cette fois sans bug si possible.
Comment relancer la campagne de vaccination avec AstraZeneca, le mal-aimé? Le gouvernement envisage de faire appel à des célébrités.
À Tarascon sur Ariège, comme un parfum de liberté, les habitants n'ont plus à porter le masque. Le maire estime que ce n'est plus nécessaire.
Vladimir Poutine montre les dents. Le président russe met en garde ceux qui seraient tentés de franchir la ligne rouge avec la Russie.
Et puis alors que la Super Ligue de foot fait pchit, la Coupe de France, elle, poursuit sa route. Quart de finale en ce moment entre le PSG et Angers. On sera au Parc des Princes, Paris qui mène 1-0 pour l'instant.
La météo avec Anissa Haddadi. Soleil et petite fraîcheur au programme demain matin.
Oui, une fraîcheur matinale, hein, Julien, avec des gelées en Normandie et dans les Hauts-de-France. Mais vous pouvez mettre un t-shirt sous le manteau puisque le soleil va briller demain après-midi avec quelques nuages dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À quelques jours de la rentrée scolaire, l'éducation nationale n'a qu'une obsession, éviter cette fois les couacs. Alors pour les maternelles et les primaires, la rentrée aura donc lieu lundi prochain, en présentiel. Pas de soucis donc de ce côté-là, mais les collégiens et les lycéens, eux, resteront encore à la maison jusqu'au 3 mai.
Virginie Riva, l'éducation nationale va donc cette fois faire en sorte que ça se passe bien.
Oui, c'est en tout cas ce qu'a dit hier le cabinet du ministre au syndicat d'enseignants. Côté cybersécurité, on leur a assuré que tout avait été fait pour sécuriser le CNED, qui avait été victime d'attaques, mais sans plus de détails. Le dispositif Ma Classe à la maison, qui dépend justement du CNED, va donc être favorisé, avec l'idée d'inciter tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à ouvrir un compte. Problème, même sur cette plateforme, expliquent les syndicats, il y a eu saturation, et notamment à cause de la salle d'attente virtuelle, qui est devenue un véritable le goulot d'étranglement. Côté ministère, on explique aux syndicats avoir vu ce problème et avoir surdimensionné la salle d'attente. Ma Classe à la maison pourrait donc désormais supporter 12 millions de connexions simultanées. Du côté des environnements numériques de travail, ces plateformes mises à disposition des régions, des départements, utilisées à l'échelle de l'établissement par les professeurs et les élèves, les collectivités territoriales ont discuté un peu partout avec leurs opérateurs. Mais là, moins de garanties, semble-t-on dire rue de Grenelle, ça peut cracher lundi dans certains endroit, nous dit un conseiller.
On suivra ça. Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1. Voilà donc pour la rentrée scolaire. Pour le reste, ne demandez pas le calendrier d'un retour à la vie normale. On ne l'a pas encore. Hein.
Alors, il y a eu un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Jean Castex s'exprimera lui demain soir. Seule petite indiscrétion, à partir du 3 mai, on devrait de nouveau pouvoir circuler librement sans la restriction des 10 km autour de chez soi et sans les attestations, évidemment.
Et en revanche, le gouvernement se concerte encore hein, pour une réouverture partielle des terrasses et des lieux culturels aux alentours de la mi-mai, mais on ne sait pas encore si ce sera avant ou après le week-end de l'Ascension.
Oui, l'exécutif qui doit prendre en compte les chiffres. Or, la situation sanitaire reste préoccupante. Le porte-parole du gouvernement l'a redit d'ailleurs à la mi-journée.
Le nombre de nouveaux cas diminue, tout comme le taux d'incidence, mais la tension hospitalière reste forte. Nous pourrions être au pic ou proche de l'être, dit Gabriel Attal. L'épidémie recule deux fois moins rapidement néanmoins qu'en novembre et la situation reste contrastée selon les régions.
Alors, pour voir le bout du tunnel, enfin, une seule solution, une vaccination de masse. Or, les Français restent réticents, on le sait, envers le vaccin AstraZeneca et cela freine fortement la campagne de vaccination.
Oui, d'où l'idée du gouvernement. Hélène Terzian, il voudrait demander à des personnalités de promouvoir ce vaccin.
Et oui, le Premier ministre a eu beau donner de sa personne en se faisant vacciner à l'AstraZeneca devant les caméras. Cela n'a visiblement pas suffi. Le gouvernement veut solliciter des stars de la chanson du petit écran de plus de 55 ans, bien sûr. Pour cela, Matignon a même chargé le service d'information du gouvernement de proposer un plan de communication, un outil évoqué tout à l'heure par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Le président de la République et le Premier ministre souhaitent que ces exemples puissent se multiplier. Ça peut être, comme vous l'avez dit, des personnalités populaires qui sont bien connues des Français. Ça peut aussi être des responsables publics qui sont dans la cible d'âge, qui pourraient aussi médiatiser leur vaccination.
Alors, qui sont ces personnalités populaires? Eh bien, certains au gouvernement rêvent de voir des stars de TF1 comme l'animateur Arthur ou encore l'actrice Mimi Mati. Selon le Canard enchaîné, Jean Castex aurait même soufflé le nom de la chanteuse Sheila. Gabriel Attal, vous l'avez entendu, parle aussi de responsable public. Sitôt dit, sitôt fait. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, 60 ans, s'est fait vacciner devant une caméra et samedi, c'est Jean-Michel Blanquer, 56 ans, qui recevra une dose du vaccin AstraZeneca.
Merci Hélène Terzian. Et on attend donc les noms des personnalités. Sachez que Disneyland Paris va se transformer en grand centre de vaccination à partir de samedi, uniquement le week-end. Et ne comptez pas y croiser Mickey ou la Reine des Neiges. Le parc précise qu'aucune animation ne sera prévue. On l'a dit, la situation en France est contrastée. Dans certaines régions, l'épidémie est en net recul. C'est le cas notamment dans une partie de l'Occitanie, à Tarascon-sur-Ariège. Depuis quelques jours déjà, les habitants sont même autorisés à tomber le masque, comme l'explique le maire Alain Sutra.
C'est un petit air de liberté que nous avons retrouvé. La sensation de se revoir, parce que pendant longtemps, on ne voyait qu'une partie du visage. Et déjà, au-delà de se revoir, c'est de rentrer plus facilement en communication. Parce que le masque est un obstacle. Et vous savez combien ces moments sont difficiles, puisqu'on ne peut pas se retrouver dans des lieux culturels ou des lieux sociaux, comme sont les cafés ou les restaurants. C'est vrai que de se voir, c'est déjà une petite avancée, même si elle est modeste et il reste fragile.
On précise quand même que le masque reste obligatoire dans certaines zones.
Alors, il reste obligatoire, bien sûr, dans tous les services, dans tous les endroits clos, et en particulier sur les marchés et à 50 mètres des établissements scolaires. Et j'invite quand même mes collègues à respecter, bien sûr, les gestes barrières et faire en sorte que même à l'extérieur, s'ils veulent garder le masque, ils le gardent.
Le maire de Tarascon-sur-Ariège, joint pour Europe 1 par Yasmina Katou. Notez qu'Emmanuel Macron se rendra demain à l'hôpital Foch de Suresnes en banlieue parisienne pour évoquer la prise en charge de ce que l'on appelle les Covid longs, ces patients qui souffrent de symptômes persistants du Covid.
Les Français continuent d'épargner. Le livret A bat tous les records.
Mais près de 3 milliards d'euros déposés le mois dernier, en dépit d'un taux d'intérêt historiquement faible, de 0,5% par an. Les Français continuent donc de privilégier ce placement qui offre l'avantage d'être immédiatement disponible en cas de besoin. L'an dernier, déjà, le livret A avait connu un succès historique avec une collecte deux fois supérieure à la normale à près de 26 milliards d'euros.
Un policier habitant de Tourcoing était la cible de tirs de mortier cet après-midi sur la façade de son domicile.
Il était en famille, avec ses enfants. Les tireurs ont pris la fuite. Ils sont en cours d'identification, nous dit Lionel Gougelot, grâce aux vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Alors, on ne sait pas encore s'il y a un lien ou non avec les violences qui ont secoué la ville de Tourcoing ces derniers jours.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes. Vladimir Poutine menaçant envers ses rivaux étrangers.
Et puis on prendra des nouvelles du match de Coupe de France qui se joue en ce moment entre le PSG et Angers.
Évidemment, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal, on part donc en Russie. Vladimir Poutine a prononcé aujourd'hui son discours annuel de politique générale, l'occasion pour lui de réaffirmer une posture très anti-occidentale.
Et on en parle forcément avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors si on en parle, c'est parce que les termes, pardon j'en perds ma voix, les termes employés par le président russe sont de loin les plus durs qu'il ait jamais utilisés.
Oui, à la limite de la menace avec cet avertissement en forme de mise en garde, j'espère, dit-il, que personne n'aura l'idée de franchir avec la Russie une ligne rouge que nous allons fixer, ce qui est quand même une drôle de formule au moment où la Russie déploie plus de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, où elle mène un exercice naval mobilisant plus de 20 bâtiments de guerre en mer Noire pour une période de 6 mois, ce qui lui permet de restreindre la liberté de navigation dans toute la zone en bloquant la circulation dans le détroit de Kerch, qui est le seul point de passage pour accéder au port ukrainien en mer d'Azov. Ce sont donc là des manœuvres d'une ampleur totalement inédite depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et qui ressemblent fortement un blocus militaire de l'Ukraine, d'autant que ces démonstrations de force interviennent au moment où des incidents armés se multiplient dans la région du Donbass, entre les milices indépendantistes pro-russes et les forces gouvernementales de Kiev, malgré l'accord de cessez-le-feu normalement parrainé par Moscou. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel à interpeller conjointement Vladimir Poutine en début de semaine pour exiger qu'il renvoie ses troupes dans le Kherson. Eh bien, ils viennent d'avoir la réponse du Kremlin. Ils n'y rentreront pas.
Ils ne rentreront pas. Autre point de discorde. Le sort de l'opposant, évidemment, Alexei Navalny, dont les Occidentaux ont fait savoir à Vladimir Poutine qu'il le tenait pour personnellement responsable de sa vie.
Absolument. Au moment où ce dernier est hospitalisé dans sa prison parce qu'il a entamé une grève de la faim, et bien là encore, Vladimir Poutine n'a pas une seule fois prononcé son nom comme s'il n'existait pas. En revanche, sa police, elle a multiplié les rafles la nuit dernière et dans la matinée chez ses principaux partisans qui devaient organiser ce soir une manifestation de soutien aux dissidents emprisonnés, sachant que lors des derniers rassemblements, elle avait arrêté pas moins de 11 000 opposants qui sont désormais officiellement considérés comme membres d'une organisation extrémiste et donc passible d'une très lourde peine d'emprisonnement.
Merci Didier. L'œil de Didier François tous les soirs dans le journal de 19h.
La Super Ligue de foot, c'est déjà fini. Après les désistements en cascade, la Juventus Turin, initiateur de ce projet de Ligue dissidente, et le Milan AC s'avouent à leur tour vaincu. Ce soir ensuite, deux nouveaux quarts de finale de Coupe de France, et notamment le PSG qui affronte en ce moment Angers. Sous vos yeux, Julien Froment en direct du Parc des Princes, et sans surprise, on va dire, c'est Paris qui domine. Hein.
Exactement, après 25 minutes de jeu, le Paris Saint-Germain qui déroule face à l'Angesco. 2-0 pour les Parisiens. Ouverture du score de l'Argentin Mauro Icardi dès la 9e minute de jeu. Et là, il y a quelques instants, Paris a doublé la mise par l'intermédiaire de son Brésilien, sa star Neymar, qui porte ce soir le brassard de capitaine. Et Paris, pour le moment, qui est dans ses petits souliers face à cette équipe d'Angers. A noter que Kylian Mbappé est sur le banc de touche, tout comme Presnel Kimpembe, l'entraîneur du PSG, hein, Mauricio Pochettino, qui fait un petit peu tourner son effectif, puisque les échéances à venir sont très importantes pour le PSG, avec un match en Ligue 1 face à Metz, et puis surtout la semaine prochaine, la demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City.
Oui.
26 minutes de jeu, donc 2-0 pour Paris face à Angers.
Et donc, question rituelle, quel est votre pronostic, Julien Froment?
Jamais de pronostic. Julien.
Même quand le match est bien emmanché.
Exactement.
Comme on dit. Merci en tout cas en direct du Parc des Princes pour Europe 1.
Et à partir de 21h10, Lyon reçoit Monaco. Match à suivre en fil rouge sur Europe 1. Puis un mot de la victoire de Julien Alaphilippe qui remporte la Flèche Wallonne pour la troisième fois. Le Français maillot de champion du monde sur le doigt a dominé Primoz Roglic et Alejandro Valverde.
Merci Isabelle. On vous retrouve demain à partir de 18h.